قل لي هل ترى في ضوء الفجر البكير.
Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode des Récits d'Afrique, je vous propose d'analyser la politique de Donald Trump sur le continent africain. Au cours de la première année de son deuxième mandat, le président américain a posé un certain nombre de gestes vis-à-vis de l'Afrique. L'arrêt de l'aide humanitaire, l'organisation de sommets sur des questions économiques ou encore les interventions militaires, notamment au Nigeria.
Il tue un nombre record de chrétiens au Nigeria et dans d'autres pays aussi. Vous savez, cette partie du monde est particulièrement dangereuse pour les chrétiens. Ils sont massacrés en très grand nombre. Nous n'allons pas laisser cela se produire.
On retient aussi certains propos particulièrement choquants. En décembre dernier, lors d'un meeting en Pennsylvanie, Donald Trump a répété ce qu'il avait dit lors de son premier mandat en 2018 au cours d'une réunion sur l'immigration. Il avait qualifié le continent africain ainsi que Haïti de « shithole countries » qui signifie « pays de merde ».
Nous avons eu une réunion et j'ai dit « pourquoi est-ce qu'on ne prend que des gens de pays de merde ?» Pourquoi on ne peut pas avoir des gens de Norvège, de Suède, juste quelques-uns? Laissez-nous en avoir quelques-uns. Du Danemark, ça vous dérangerait de nous envoyer quelques personnes de ce pays-là? Envoyez-nous des gens bien, s'il vous plaît. Mais non, on recrute toujours des Somaliens, des endroits qui sont un désastre, immondes, sales, répugnants, rongés par la criminalité. La seule chose qu'ils savent faire, c'est attaquer des navires.
Un représentant de l'ONU avait qualifié à l'époque ses propos de racistes.
Ces propos du président des États-Unis sont choquants et honteux. Je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre mot que raciste. On ne peut pas qualifier des pays et des continents entiers de pays de merde et considérer que toute leur population, qui n'est pas blanche, n'y est pas la bienvenue.
Mis à part ces déclarations tonitruantes du président, que représente l'Afrique pour l'administration Trump? Y a-t-il une rupture ou une continuité dans la politique américaine sur le continent? On en parle avec Vincent Hugeux, journaliste, enseignant à Sciences Po à Paris. Bonjour.
Bonjour.
Quand on lit la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, publiée en décembre, l'Afrique n'est reléguée qu'à la toute fin de ce document d'une trentaine de pages, en trois paragraphes seulement. Ça montre le peu de place que l'administration Trump donne à l'Afrique. En voici un extrait.
Les États-Unis devraient plutôt chercher à nouer des partenariats avec certains pays afin d'apaiser les conflits, de favoriser des relations commerciales mutuellement avantageuses et de passer d'un modèle d'aide étrangère à un modèle d'investissement et de croissance capable d'exploiter les abondantes ressources naturelles de l'Afrique.
Vincent Hugeux, comment définir cette politique de l'administration Trump en Afrique ?
Il est significatif de constater que l'Afrique, dans ce fameux document de stratégie de sécurité nationale, est expédié en trois paragraphes à la fin du document, et que tout cela est profondément inspiré de un autre texte qui date, lui, de 2024, qui avait été rédigé par la Heritage Foundation, qui est ce cercle de réflexion ultra-conservateur qui a amplement inspiré, d'ailleurs, la stratégie en question. Et on note de manière parfaitement limpide que ce qui est privilégié dans ce bref passage africain, c'est ce qu'on appelle l'Afrique utile, même s'il y a également une mention du péril lié à la résurgence des activités terroristes islamistes, et on y reviendra sans doute.
Oui, tout à fait.
Pour autant, on voit que l'Afrique ne n'échappe pas totalement à l'hyperactivisme un peu brouillon de Trump, qui est à mon sens dicté par trois obsessions. D'abord, une obsession, je dirais, impériale, l'obsession d'entrer dans l'histoire comme le faiseur de paix, même si les paix en question sont ô combien factices ou imaginaires, et puis aussi et surtout l'Afrique comme terrain d'une guerre économique, notamment contre la Chine. C'est-à-dire que l'obsession, notamment vis-à-vis des terres rares et des minerais, elle se double de la volonté d'en priver le rival pékinois.
Mais vous diriez, Vincent Hugeux, que cette politique de Donald Trump s'inscrit dans la continuité de ses prédécesseurs ou bien qu'il y a un changement de cap et en particulier lié à l'intérêt qu'on porte sur les minerais stratégiques ?
Alors, le désintérêt pour le continent africain n'est pas l'apanage de l'administration Trump. Au fond, il s'inscrit dans le droit fil de ce qu'on appelle le « benign neglect », la désinvolture assumée de ses prédécesseurs. En revanche, ce qui change, et pas seulement sur la forme, c'est d'abord le caractère désinhibé du mépris pour l'Afrique, d'une méconnaissance crasse pour son histoire et l'histoire de ses peuples et de ses civilisations, un coefficient assez spectaculaire de mépris, de paternalisme, de condescendance et, soyons clairs là encore, de suprémacisme, qui est évidemment une version plus ou moins sophistiquée du racisme. Vous évoquiez en préambule le fameux « shithole countries » que personne sur le continent africain n'a oublié. Et c'est aussi, sur le même registre, parfaitement assumé, même revendiqué, le caractère, je dirais, mercantile et transactionnel jusqu'à la caricature de l'approche trumpiste. Et c'est en cela qu'il y a un changement qui n'est pas seulement de degré, mais sans doute de nature.
Le premier geste de Donald Trump a été l'arrêt brutal de l'USAID, qui était fortement impliqué dans le développement et l'aide d'urgence en Afrique subsaharienne. Voici comment, il y a un an, Donald Trump le justifiait.
L'USAID est dirigée par une bande de fous radicaux et nous sommes en train de les éliminer. Des fous radicaux, nous les éliminons, puis nous prendrons une décision.
Du jour au lendemain, des centaines de programmes d'aide absolument vitaux dans des situations de crise ont été arrêtés. Conséquence, plusieurs études dressent un bilan lourd en nombre de décès. Et en même temps, Vincent Hugeux, des personnalités africaines ont dit « c'est l'occasion de sortir de l'assistance ».
Alors attention au côté ambigu de ce type de satisfecit. Pas mal de potentats africains, plus ou moins bien élus, voire pas élus du tout, ont mesuré l'intérêt qu'il y avait à flatter l'ego que l'on sait tyrannique de Donald Trump. Donc, approuver, y compris ses sorties les plus navrantes. Il faut avoir à l'esprit que le sabordage délibéré de l'USAID est un désastre durable qui a une dimension criminelle. Lorsque vous sabordez de la sorte cette institution, eh bien, vous affaiblissez immédiatement des chantiers aussi vitaux que la lutte contre le sida, ou contre le paludisme, ou contre la mortalité maternelle et infantile. Deux exemples. La régression des financements atteint quasiment 70% pour le Rwanda, 34% pour l'Iswatini, ce petit pays qui s'appelait autrefois le Swaziland. Vous avez un taux de prévalence du VIH qui est de 25%. Absolument colossal. La mort programmée de l'USAID a conduit à l'abandon de plus de 80% des programmes. Et ce qui est tout à fait significatif, c'est l'argumentaire. On vient d'en entendre une partie, mais celui de Marco Rubio, donc le secrétaire d'État, vaut également le détour. Pour justifier cette fracture, Rubio a prononcé un réquisitoire assez grotesque, expliquant que l'USAID n'avait rien produit d'autre qu'un, je le cite, « complexe industriel mondial d'ONG aux frais du contribuable américain ». Et plus intéressant encore, il dénonce à ce moment-là l'ingratitude des pays d'Afrique en notant que moins de 30% des résolutions défendues par les États-Unis à l'Assemblée générale de l'ONU ont été votées par les pays d'Afrique, ce qui signifie que, en quelque sorte, ils se montreraient coupables d'une terrible ingratitude. Donc on a là un autre exemple, une autre illustration éclatante d'une vision étroitement mercantiliste et purement transactionnelle. Vous connaissez le mantra favori, trade not aid, le commerce, pas l'assistance.
Assez rapidement après son investiture en juillet, Donald Trump a accueilli lors d'un mini-sommet les dirigeants de 5 pays d'Afrique, Mauritanie, Guinée-Bissau, Libéria, Sénégal, Gabon. Et on retient un moment particulièrement gênant qui montre l'impréparation de Donald Trump lorsqu'il a complimenté le président du Libéria, Joseph Boakai, pour son niveau d'anglais alors qu'il s'agit de la langue officielle de ce pays.
Nous souhaitons collaborer avec les États-Unis pour la paix et la sécurité dans la région parce que nous y sommes attachés. Et nous tenons à vous remercier chaleureusement pour cette opportunité.
Wow, quel excellent anglais. Où avez-vous appris à parler aussi bien? Où avez-vous fait vos études? Au Libéria?
Oui, monsieur.
C'est très intéressant, votre anglais est magnifique. Certaines personnes à cette table ne parlent pas aussi bien que vous.
Merci.
Vincent Hugeux, ça montre à quel point Donald Trump n'y connaît rien au continent africain.
Non mais ça, alors pour le coup, ce n'est pas lui faire un mauvais procès que de souligner son inculture abyssale, mais qui est aussi, au fond, la rançon du mépris qu'il a pour les peuples inférieurs.
Il n'empêche, chaque dirigeant a vanté les richesses de son pays en minerais, en hydrocarbures. Et ce qui intéressait déjà l'administration Trump, c'était d'essayer de faire des deals, richesses naturelles contre quoi? Développement, sécurité, Vincent Hugeux.
Alors, contre évidemment accès illimité et inconditionnel aux ressources des sous-sols des pays mentionnés à l'instant, mais aussi, et on revient à cette obsession permanente, contrer l'influence néfaste de la Chine. C'est une citation. Mmh. Au-delà de l'intérêt pour le lithium, l'uranium, le cobalt, le manganèse, l'or, etc.
Mais est-ce que ce sont des deals donnant-donnant, ressources naturelles contre sécurité ou contre développement? On sait que cette vision du développement est contestée. L'économie minière est une économie d'enclave. Elle n'a pas un vrai pouvoir d'entraînement sur le développement.
Et les Africains sont fort mal payés depuis des décennies pour le savoir. Dans la contrepartie, il y a quand même la promesse sécuritaire. Quelle que soit la réalité des engagements militaires. J'observe par exemple que, à la différence de beaucoup d'autres institutions, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, qu'on appelle communément l'Africom, n'a pas été démantelé. C'est en fait un organe qui a été créé dès 2008 par George W. Bush et il a été épargné. Et je remarque aussi, par exemple, que des pays tels que le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Togo bénéficient toujours, à l'instant T, de ce qu'on appelle le Global Fragility Act, qui est une loi qui date de 2019 et qui a vocation à orchestrer l'aide américaine en matière de sécurité au profit d'États réputés fragiles. Donc on voit le souci de Washington de maintenir dans le deal en question la dimension sécuritaire. En quelque sorte, vous nous donnez accès à vos ressources naturelles et en contrepartie, on vous garantit une aide sécuritaire, notamment sur le front de la lutte anti-djihadiste. C'est ainsi que récemment, par exemple, vous avez des instructeurs américains, même si on en parle peu, qui se sont rendus en République centrafricaine pour consolider le pouvoir de Faustin Archange Touadéra, lequel est par ailleurs soucieux de se sortir un peu du traquenard dans lequel il s'est fourré tout seul en confiant l'essentiel de la sécurité de son pays à la Russie. D'abord à Wagner, puis à son héritier Africa Corps. Donc là, il y a effectivement un intérêt objectif pour certains pouvoirs fragiles à se placer sous l'aile réputée protectrice de Washington.
On a été quand même surpris de voir que les 5 premiers pays d'Afrique invités étaient plutôt modestes. Aucun des grands acteurs du continent, comme le Nigeria, l'Égypte ou l'Éthiopie, qui sont de plus grandes économies, ils n'ont pas été invités. Pour quelle raison, Vincent Hugeux?
Disons que c'était une sorte de banc d'essai, une manœuvre d'approche.
Ouais.
Pour les grands pays, ne citons que la République démocratique du Congo, les États-Unis sont beaucoup plus dans une approche contractuelle bilatérale qui peut, alors, en l'occurrence, s'adosser aussi à une prétention pacificatrice.
Donc, prétention, en réalité, on va en parler.
Oui. Sur les grands pays que vous mentionnez, qui ne sont pas d'ailleurs totalement négligés, hein, il y a des émissaires qui passent. Là, en l'occurrence, en juillet 2025, c'est une sorte de test, de ballon d'essai, avant l'instauration d'une stratégie plus méthodique et plus systématique.
Oui, parce qu'avec le temps, on a quand même l'impression que l'administration Trump, il va plus franco. Au début du mois, Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, a présidé un sommet sur les minerais critiques avec une quarantaine de pays, notamment la RDC, le Kenya, la Guinée. Vincent Hugeux, c'est pour contrer la Chine déjà très présente dans ces pays que l'administration Trump cherche à faire des alliances en Afrique pour tenter de sécuriser ses chaînes d'approvisionnement en ressources stratégiques.
Oui, il s'agit de garantir aux sociétés américaines des marchés ouverts, des ressources illimitées, premier acte, et aussi, et je dirais presque surtout, d'en priver le rival chinois. Les Américains considèrent, et c'était déjà le cas sous les administrations démocrates, que l'ennemi systémique de Washington, c'est bien la Chine. Alors ça se joue aussi bien dans les mers asiatiques que sur le continent africain, voire en Amérique latine, référence là aussi au Venezuela et au canal de Panama.
Mais c'est quoi le plan de Donald Trump finalement? En organisant des sommets plus structurés, l'objectif c'est de signer des contrats, de développer des infrastructures pour transporter les minerais critiques. Je pense par exemple au corridor de Lobito qui traverse la Zambie, la RDC, l'Angola sur plus de 1500 kilomètres jusqu'à l'océan Atlantique. L'objectif des États-Unis c'est de relier cette région à l'Atlantique vers les États-Unis.
À mon sens, il s'agit de systématiser et d'orchestrer d'une manière un peu plus méthodique, un peu moins brouillonne, la vassalisation économique et stratégique de ces pays africains. Et donc, ça signifie qu'il faut à un moment donné élargir le spectre et essayer d'embarquer davantage de pays via des sommets de cette envergure.
Mais que gagnent les Africains dans cette affaire ?
C'est toujours pareil, il s'agit encore une fois d'obtenir en contrepartie des garanties de nature sécuritaire et militaire pour la perpétuation du régime en place et ou pour le combat frontal contre le péril djihadiste. Et il s'agit aussi, et ça c'est une réalité dont certaines capitales africaines peuvent tirer profit, de jouer précisément de la rivalité. Ce qui permet de moduler, en quelque sorte, contractuellement, les échanges avec Washington et Pékin, par exemple. Ça, si on en fait un usage habile, eh bien, les populations africaines, on a le droit de rêver, pourraient en bénéficier ultérieurement.
Aujourd'hui, les États-Unis signent également leurs propres accords bilatéraux avec le Congo et le Rwanda, qui ouvriront de nouvelles perspectives pour les États-Unis en matière d'accès aux minéraux essentiels et apporteront des avantages économiques à tous. Et nous serons impliqués, nous envoyons certaines de nos plus grandes et plus importantes entreprises dans ces deux pays. Nous allons extraire une partie des terres rares et récupérer certains actifs, puis payer et tout le monde va gagner beaucoup d'argent.
Toujours dans la même veine, hein, début décembre, Donald Trump a fait signer un accord de paix entre les dirigeants du Rwanda et de la RDC avec la prétention de mettre fin au conflit. C'est un accord de paix qui repose sur un accord économique hein, pour que les industries américaines tirent profit des immenses ressources minières de l'Est de la RDC. Vincent Hugeux, tout le monde sait que ça n'a pas mis fin au conflit, mais de nombreux experts affirment quand même que ça partait d'une bonne idée.
Écoutez, il se trouve que Donald Trump prétend avoir mis fin à 8 conflits armés depuis son retour à la Maison-Blanche. Aucune des paix prétendument imposées par Trump ne tient la route durablement. Certaines sont totalement fictives. Et l'exemple de la RDC et du Rwanda est sans doute le plus éclatant. Écoutez, moins d'une semaine après la signature solennelle à Washington, entre Kagame, le Rwandais, Tshisekedi, le Congolais, signature que Trump, avec sa retenue proverbiale, qualifie de historique et miraculeuse, moins d'une semaine donc après ses paraphes, eh bien, l'AFC M23, donc ce mouvement rebelle téléguidé et soutenu par Kigali, s'empare de la ville d'Uvira. Alors on m'objectera que depuis il y a eu retrait, bien sûr. Un retrait qui est strictement tactique, mais qui n'invalide en rien l'objectif véritable du M23, donc du Rwanda, c'est-à-dire d'accéder aux richesses du Katanga un peu plus loin. C'est vous dire à quel point ce type d'accord relève de l'arnaque, au sens où, encore une fois, il n'est guidé que par une tentation prédatrice relative aux ressources légendaires de l'ancien Congo belge.
Mais c'est sous la pression des États-Unis que le M23 a quitté la ville d'Uvira à l'est de la RDC. On voit bien que les Américains ont besoin, en effet, de plus de paix sur le terrain, parce qu'il n'y a pas que le M23, il y a une centaine de groupes armés, pour pouvoir profiter et exploiter ces mines. Je pense par exemple à celle de Roubaïa, qui est contrôlée par le M23 et qui regorge de coltan et dont ont besoin les États-Unis.
Mais c'est là encore, on se heurte à ce qui est pour moi le péché originel de cette administration, indépendamment de ces tropismes racisants. C'est la méconnaissance du terrain.
Tout à fait.
Les schémas de pacification tels qu'ils sont concoctés à Washington se heurtent à des réalités locales sont terriblement méconnues par, non pas d'ailleurs les analystes, vous avez d'excellents africanistes aux États-Unis.
Aux États-Unis, tout à fait, qui connaissent très bien le terrain. Oui.
Mais les messages qu'ils émettent ne parviennent pas au cerveau des décideurs. Et donc, quelqu'un comme Boulos, donc le
Massad
Boulos, hein, ouais. ce conseiller dont on reparlera dans quelques instants,
ouais.
Croit pouvoir comprendre et résoudre des conflits aussi complexes que celui de la RDC, la Libye, le Soudan ou le Sahara occidental. Mais pour cela, il faut, je dirais, un socle minimal de connaissance de la complexité des rapports de force à l'échelon régional. Et on en est, à mon grand regret, très loin.
Et vous avez anticipé ma question, en fait, Vincent Hugeux. Donald Trump a placé Massad Boulos comme conseiller principal pour le continent. C'est le beau-père de sa fille, Tiffany. Mais est-il mieux informé sur le continent ou plus aguerri que Donald Trump ?
Il devrait l'être parce que lui, à la différence notable de Trump, a un vrai passé africain. Boulos est un américano-libanais qui, à ma connaissance, est aussi détenteur d'ailleurs d'un passeport français, hein, pour l'anecdote. C'est un chrétien maronite. On reparlera sans doute du christianisme ultérieurement.
Oui.
Donc il y a ce lien familial intime que vous évoquez à l'instant. Il y en a un autre d'ailleurs, qui est que son épouse est elle-même la fille d'un homme d'affaires libanais prospère, hein, qui a un véritable empire africain dans une dizaine de pays, et qu'elle est native du Burkina Faso. L'ennui, c'est que le fait d'avoir travaillé pour une société familiale dans le secteur automobile au Nigeria, ce qui est le cas de Boulos, ou d'avoir convolé en juste noces avec une native du Burkina Faso, ne vous confère pas une culture d'africaniste. Et c'est ça tout le problème de Boulos. C'est-à-dire qu'il croit pouvoir appliquer des méthodes assez simplistes, qui reposent à la fois sur la menace et la promesse, mais qui, une fois encore, j'y insiste, font litière de l'extrême complexité des réalités locales.
Mais notamment sur le terrain du Soudan, par exemple, qui est un conflit extrêmement complexe dans lequel d'autres nations sont impliquées aussi. Hein,
oui, mais conflit très piégeux pour Washington, puisque parmi les alliés régionaux des États-Unis, vous avez des puissances qui soutiennent les deux camps adverses.
Et ouais. Et à côté de cette méconnaissance, Donald Trump pratique l'humiliation. On l'a vu plus d'une fois dans le bureau ovale, notamment avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Il a dû subir des accusations mensongères de génocide contre la minorité blanche en Afrique du Sud. L'administration Trump a imposé aussi des droits de douane de 30% dans certains secteurs dans ce pays. Ce coup semble avoir été influencé par Elon Musk, hein, qui est né, lui, en Afrique du Sud et qui affirme que la minorité blanche est persécutée. Vincent Hugeux, c'est la seule raison.
Sans doute pas, mais vous avez raison de la mentionner en priorité, parce que, souvenons-nous, hein, on était avant le semi-divorce entre Donald Trump et Elon Musk, que Elon Musk, effectivement, ce libertarien qui frôle parfois la démence dans ses propos, a un compte à régler avec l'Afrique du Sud de sa prime jeunesse. Mmh. Et donc, il adhère totalement à ces discours fallacieux d'une minorité africaneur qui serait exposé à un génocide systématique des autorités de Pretoria. Vous avez aussi raison de rappeler cette séquence du bureau ovale. On se souvient évidemment de la tentative d'humiliation du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Là, on se retrouve dans le même décor,
ouais.
le fameux bureau ovale, mais on a un Cyril Ramaphosa qui ne se laisse pas faire. C'est-à-dire qu'il tente d'expliquer à Donald Trump et à son orchestre que les images qui prétendent illustrer l'exode d'une minorité blanche soumise à d'atroces persécutions. C'est en fait la quintessence des fake news, puisque ça renvoie à une manifestation bien antérieure. Bon. Et puis, ce qui est encore plus frappant, c'est qu'alors même que la Maison-Blanche suspendait les programmes d'accueil de réfugiés persécutés, eh bien, la même Maison-Blanche ouvrait les bras à des dizaines de fermiers blancs, fuyant, je cite, la discrimination raciale en Afrique du Sud. Donc voilà, c'est une sorte d'instantané qui dit tout, à la fois des fantasmes idéologiques et de la méconnaissance évoquée déjà à plusieurs reprises dans cet entretien.
Et c'était aussi pour taper sur les doigts de Cyril Ramaphosa et sa politique étrangère, notamment la plainte pour génocide contre Israël devant la Cour internationale de justice.
Parfaitement exact. L'un des éléments d'exaspération des États-Unis, en tout cas version républicaine, vis-à-vis de l'Afrique du Sud, et c'était déjà vrai sous Nelson Mandela d'ailleurs, c'est la vieille fraternité qui lie la mouvance palestinienne, donc c'était le cas entre Yasser Arafat et Nelson Mandela par exemple, et les autorités de la nation arc-en-ciel. Donc cette dimension du châtiment au regard du soutien inconditionnel que Trump apporte au cabinet le plus extrême droitier de l'histoire d'Israël, celui de Benjamin Netanyahou, c'est évidemment un élément, un facteur qu'il faut prendre en compte.
Pour l'administration Trump, l'Afrique est d'abord, on l'a compris, une ère d'opportunité économique. Pour autant, les Américains disent vouloir y rétablir la sécurité, notamment au Nigeria, où l'armée américaine a mené des frappes dans l'état de Sokoto, dans le nord du pays, à Noël, le jour de Noël, contre des cibles présentées comme des combattants de l'État islamique. Ils sont accusés de massacrer des chrétiens dans la région. Et après avoir menacé le gouvernement nigérian pour inaction, les Américains ont décidé de renforcer la coopération militaire, comme l'explique John Brennan, commandant adjoint du commandement des États-Unis pour l'Afrique.
Du point de vue du ministère de la guerre, il s'agit avant tout de lutte contre le terrorisme. Comment permettre à nos partenaires nigérians d'être plus efficaces? Cela couvre tout l'éventail du partage de renseignements au partage des TTP, tactiques, techniques et procédures, ainsi que la possibilité de les aider à se procurer davantage d'équipements, des équipements adaptés et les plus efficaces possibles contre l'État islamique et d'autres organisations extrémistes violentes.
Les Américains interviennent aussi en Somalie contre les groupes djihadistes Al-Shabaab et contre l'État islamique. Vincent Hugeux, ce sont réellement des combats idéologiques?
Alors, ils ont une dimension idéologique, on y reviendra, mais aussi une dimension intrinsèquement sécuritaire. Il n'est pas anodin de relever que les premières frappes de l'ère Donald Trump Acte II datent de février 2025 et que précisément, vous y faisiez allusion, elles ciblent des éléments présumés de l'État islamique en territoire somalien. La Somalie a toujours été un des grands cauchemars des États-Unis. Hein, il ne faut pas l'oublier. Moi, j'étais en reportage au début des années 90 à Mogadiscio.
On peut dire qu'ils ont eu une réelle défaite avec un certain nombre de morts américains dont ils ne se sont toujours pas remis.
J'ai vu des cadavres de soldats américains traînés derrière des véhicules de miliciens somaliens à l'époque dans les rues de Mogadiscio. Donc il y a là une sorte de traumatisme permanent. Pour le reste, le Nigeria est un exemple encore très éclairant. Je fais référence évidemment à la quinzaine de missiles qui le 25 décembre, donc à Noël l'an dernier, ciblaient des groupes liés, semble-t-il, à Daesh, à l'État islamique, dans l'État de Sokoto. Ce qui m'ennuie, c'est que Sokoto, ça se trouve dans le nord-ouest du Nigeria. Or, le foyer djihadiste le plus ardent, il se trouve dans le nord-est de cet immense pays. Donc, en réalité, il n'est pas du tout exclu que l'Africom ait tapé un peu à côté de la cible.
Ouais.
Notamment parce que le nord-ouest, donc, qui a été ciblé, c'est un endroit où vous voyez essentiellement du banditisme. Alors, qui peut être occasionnellement lié à un réseau djihadiste local, mais en réalité, c'est de l'enlèvement et du kidnapping contre rançon. Donc, je ne suis pas sûr que les cerveaux de la stratégie djihadiste de l'ancien Boko Haram, par exemple, donc au Nigeria, aient été épouvantés par cette initiative.
Mais en quoi les Américains, c'est important pour eux de lutter contre les djihadistes en Afrique, où on sait très bien qu'ils n'ont pas d'intérêt? Est-ce que pour eux, ils y voient un intérêt sécuritaire à leur niveau? Et d'autre part, est-ce que l'argument de cibler des chrétiens est plausible?
Alors d'abord, le djihadisme, au sens large du terme, est également l'incarnation d'un autre immense traumatisme de l'histoire contemporaine.
Le 11 septembre.
évidemment, le 11 septembre. Donc, même si les analyses sont sommaires, même si les accusations sont parfois erronées, il n'en demeure pas moins que quand vous évoquez le péril djihadiste aux citoyens américains lambda, vous ravivez cette blessure béante, hein, et qui n'a jamais vraiment cicatrisé. Et encore une fois, quand vous prétendez être le maître du monde, vous devez manifester votre capacité à être le protecteur.
Mais donc, attaquer les chrétiens, c'est donc plausible comme argument?
Oui.
On connaît la dimension religieuse de Donald Trump et relative, hein, mais n'empêche, c'est quand même les évangélistes qui l'ont soutenu largement.
Ouais. Non, mais attendez. Donald Trump se moque de l'enseignement du Christ comme de son premier swing. Là-dessus, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Non, ce qui est intéressant, c'est l'influence et l'activisme des lobbies évangéliques américains, donc ultra-conservateurs, radicaux, auprès d'une part du Congrès, et d'autre part de l'administration elle-même. Et il faut aussi souligner l'influence croissante de prédicateurs d'origine américaine en Afrique même, hein, avec l'éclosion de nouvelles églises, etc., toutes plus radicales. Ce qui est intéressant sur la dimension religieuse, c'est que donc on prétend que seuls les chrétiens seraient la cible d'un génocide djihadiste. Or, il se trouve qu'il y a quelques mois, j'ai retrouvé une déclaration de Massad Boulos, dont on parlait tout à l'heure, hein, donc le conseiller Afrique du département d'État et Donald Trump, qui soulignait, pour avoir lui-même vécu au Nigeria, donc s'il y a au moins un pays qui connaît un peu, c'est celui-là, que l'activisme djihadiste faisait plus de victimes chez les musulmans que chez les chrétiens, ce qui est une réalité statistique absolument imparable. Mais, encore une fois, ce type de nuance, je dirais factuelle, pèse de peu de poids par rapport à l'obsession idéologique d'une dimension religieuse quasiment messianique dans l'investissement sécuritaire des Américains en Afrique.
Il est vrai que au niveau du Sahel, mais pas seulement au Sahel, hein, le djihadisme progresse considérablement. Et d'ailleurs, on est aussi étonné de voir l'administration Trump qui revient dans les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, donc Mali, Burkina Faso, Niger, alors que les liens avaient été rompus avec la précédente administration. Ce sont des pays qui ont connu des putschs, qui sont dirigés par des juntes souverainistes, des régimes menacés par les djihadistes. Après avoir tourné le dos à la France, ils ont fait appel aux mercenaires russes, Africa Corps, après Wagner. Vincent Hugeux, Washington y voit des intérêts communs en matière de sécurité et d'économie?
Écoutez, moi, pour tout vous dire, le rapprochement amorcé entre Washington et les juntes sahéliennes, par exemple, pour ne citer que celle-là, ne me surprend absolument pas. Parce que, précisément, il s'inscrit dans la logique que nous tentons de décrypter ensemble. L'impératif démocratique est totalement étranger à la stratégie trumpiste. Maintenant, l'autre dimension, elle est effectivement, encore une fois, pardon d'être un peu répétitif, mais elle est économique. Nous savons très bien que, par exemple, des pays comme le Mali, la République centrafricaine, pour ne citer qu'un pays un peu plus central, disposent de ressources formidables, prouvées en termes d'or, de diamants, etc., mais alléguées en termes d'hydrocarbures, par exemple. Donc, il va de soi que Washington est prêt à pactiser avec le diable, donc avec les putschistes sahéliens, dès lors qu'il élargit encore son champ d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles africaines.
Et c'est pour contrer la Russie aussi.
Oui, alors, même si, je le soulignais tout à l'heure, l'ennemi systémique et prioritaire reste la Chine, c'est vrai qu'à l'échelle africaine, il s'agit également de faire pièce au travail de SAP qui avait été entrepris sous Evgeny Prigogine, l'un des fondateurs de la nébuleuse
Wagner. Ils sont présents en particulier dans ces trois pays de l'AES et Centrafrique, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. C'est donc, on sait qu'après... la rébellion fatale, dans tous les sens du terme, de Prigogine, hein, qui lui aura coûté la vie. Il y a eu de la part de l'administration moscovite la volonté explicite de mettre sous tutelle, en quelque sorte, tous les actifs que Wagner avait pu collecter de la Libye à la République centrafricaine, en passant par le Soudan. Bon. Dès lors, la Russie devient effectivement un rival. Et quand Les États-Unis s'aperçoivent que le président Touadéra, par exemple, de RCA, hein, la République centrafricaine, se trouve aujourd'hui fort embarrassé d'avoir, en quelque sorte, confié les clés du camion national à la Russie. Eh bien, ils s'aperçoivent là qu'ils ont une fenêtre d'opportunité pour revenir sur le terrain, d'où, par exemple, la présence récente, évoquée précédemment, d'instructeurs américains à Bangui. Donc, bien sûr, il y a aussi cette dimension russe, même si, encore une fois, à mon sens et sur le long terme, elle est jugée moins préoccupante par Washington que l'influence chinoise.
Donc, pour résumer, finalement, la politique américaine sous Donald Trump 2, c'est le commerce, pas l'aide, mais la paix aussi. C'est ça?
Oui, la paix, mais pas nécessairement par pacifisme bêlant.
Non.
La paix comme une garantie de pouvoir faire du business tranquillement et de manière prévisible.
La paix sous condition.
Exactement.
La paix intéressée. Ce qui laisse très peu de marge de manœuvre pour négocier, finalement, pour ces pays qui ont d'énormes failles, et notamment sécuritaires.
Oui, peu de marge de manœuvre, mais encore une fois, la possibilité de jouer sur plusieurs tableaux, de tenter de maintenir plusieurs fers au feu, pour aussi faire comprendre aux États-Unis qu'il n'y a pas de soumission totale et définitive, mais que les pays en question sont, comme l'Amérique elle-même, dictés par leurs propres intérêts. Mais pour cela, il faut évidemment des pouvoirs qui soient à la fois légitimes et dotés d'une colonne vertébrale suffisamment robuste pour ne pas ployer sous la moindre menace.
Merci beaucoup Vincent Hugeux. Je rappelle que vous êtes journaliste, grand reporter et vous venez de publier un livre « Les fers et le fouet, une histoire raisonnée de l'esclavage » aux éditions Perrin.